France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans la tête des patrons du CAC ce soir.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Ouais. Et je la respecterai.
Carlos Tavares qui parle de son salaire, évidemment, l'ex-patron de Stellantis, c'était en 2024, le 16 avril 2024, chez nos amis de Ici Lorraine. Bonsoir Vincent Beaufils.
Bonsoir.
On va beaucoup en parler de Tavares au cours de cette conversation. Vous êtes directeur de la publication de Challenge, vous avez très longtemps dirigé la rédaction, vous signez un livre qui s'appelle « Les patrons sont-ils des monstres ?» aux éditions de l'Observatoire. On a choisi de vous inviter au lendemain de Choose France, qui fait la part belle aux entreprises, aux patrons étrangers, notamment pour vendre l'attractivité de la France. On va bien sûr parler des patrons français, mais pas seulement. Je voudrais, pour ceux qui nous écoutent, donner le sous-titre de votre livre. Donc, les patrons sont-ils des monstres? Et en sous-titre, cupide, mégalo, autocrate, narcissique, mercenaire, intrigant, mais tellement performant. On va donner des exemples, mais en se lisant, effectivement, on se dit que la performance n'excuse pas tout. Vous décrivez quand même des gens qui sont sacrément hors sol.
Oui, c'est certain qu'ils sont hors sol. L'exemple que vous preniez de Carlos Tavares avec les rémunérations, c'est 36 millions d'euros. Je pense que personne n'imagine ce que c'est. Et par rapport à ça, ça montre bien qu'effectivement, ils ont perdu tout contact avec la réalité, ou en tout cas la réalité et le lien social avec leur pays.
Ouais.
Mais je dirais... pas seulement hors sol, c'est surtout hors territoire. Mmh. Et c'est ça, moi, qui m'apparaît, c'est qu'on a construit des entreprises extrêmement puissantes. La France est le pays qui a quasiment le plus fort contingent de multinationales dans les 500 plus grandes entreprises du monde, en tout cas parmi les entreprises européennes. Mais en même temps, tout ça s'est fait aux dépens des territoires.
Mmh.
Et au fur et à mesure que le capitalisme anglo-saxon a allongé la chaîne qui retient les patrons par rapport à ce qu'est la France. La France est devenue un peu une business unit pour eux seulement.
Et c'est vrai que chez nous, leur code d'amour est pas très haute. On reviendra à ce que vous dites, notamment sur notre spécificité peut-être, mais surtout l'attachement à un territoire. À un moment, je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'un de vos interlocuteurs qui parle de l'acceptabilité sociale que nous avons, nous, en France, notamment par rapport au salaire. Et l'un d'eux dit, au fond, que c'est une fixette française. Est-ce que c'est une fixette française ou est-ce que c'est une spécificité que de dire que les patrons doivent aussi avoir conscience de ce qu'est leur territoire et de comment les gens pensent sur ce territoire.
Ben, c'est quelque chose que devraient avoir en tête tous les conseils d'administration. Or, en réalité, au moment de fixer les rémunérations des patrons, ils pensent surtout à un benchmark international.
Mmh.
Et ils se disent, est-ce qu'effectivement, notre patron, il est bien payé, bien situé par rapport à ses performances? Alors d'abord, il ne faut pas dire que les patrons français sont payés beaucoup plus que les autres.
Mmh.
Hein. Ils sont en Europe à peu près moins payés, par exemple, que les Allemands ou les Espagnols, et plus payés que les Nordiques. Si vous prenez le patron de BNP Paribas, par exemple, le patron de la Deutsche Bank est payé deux fois plus.
Mm-hmm.
Celui de Santander, c'est une femme, trois fois plus.
Mais donc le seuil de tolérance, il est très français, en fait.
Et c'est cette idée qu'en fait, effectivement, en France, on s'interroge sur la réalité de ces rémunérations et on ne le met pas du tout en perspective avec ce que sont les autres salaires.
Mm-hmm.
Il y a quelque chose qu'a fait le ministre Bruno Le Maire très intéressant avec la loi Pacte.
Ouais.
Il a créer ce qu'était le ratio d'équité.
Mmh.
Combien de fois...
Le différentiel entre les salariés et le patron.
Entre ouais. le salaire médian et celui du patron. Il est, pour les patrons les plus attentifs à la cohésion sociale, autour de 40, et il grimpe à 500 pour Carlos Tavares.
Ouais. Alors, grimpait, effectivement, pour ce qui est de Carlos Tavares. J'ai retenu cette phrase d'Emmanuel Macron dans votre livre, alors qu'il était secrétaire adjoint de l'Élysée à l'époque, et il a cette phrase. Il dit « Si l'on ne remet pas de l'éthique collective dans le capitalisme contemporain, on aura des problèmes ». Quand vous ne savez plus expliquer à votre mère ou à votre secrétaire combien vous gagnez, il y a un problème. Donc ça veut dire que c'est et vous parliez tout à l'heure de la loi Pacte, donc ça veut dire que c'est pas seulement auprès de la population française en fait, c'est aussi très ancré et quelque chose dont les politiques quand même ont conscience.
Oui, et c'est ce qui explique aussi, parce que la réaction de l'opinion, si vous voulez, globalement, l'entreprise est bien acceptée à peu près, ouais. 60...
Bah, on aime nos PME, on n'aime pas nos grands patrons en fait.
On aime bien l'entreprise, les PME et les patrons, ils passent tout d'un coup à simplement 36% d'opinion favorable. Et surtout, en fait, deux Français sur trois estiment que les grands patrons prennent leurs décisions pour leur intérêt personnel.
C'est
ça, c'est un constat absolument terrible. Et pourquoi ? Parce que c'est lié effectivement à leur rémunération, c'est lié à ce système maintenant des actions gratuites que les actionnaires donnent aux patrons et qui leur a fait effectivement perdre un petit peu le sens des réalités du quotidien.
Mais est-ce que c'est la mondialisation au fait qu'il les a fait, vous avez cette expression qui est très jolie, changer d'aquarium, en fait, c'est ce que vous dites, ou est-ce que c'est la comparaison?
Non, c'est
vous avez parlé des voisins.
Changer d'aquarium, c'est pas moi qui ai cette expression, c'est en fait Nicolas Dufour, qui est le patron de BPI France. Il connaît parfaitement le monde, celui des grandes entreprises, parce qu'il a été à Capgemini pendant longtemps, et puis maintenant, avec BPI France, il aide beaucoup de petites entreprises. Et il dit que effectivement, on est passé d'une forme d'État qui est de capitalisme étatique, industriel, hein, qui est capitalisme anglo-saxon, serviciel et libéral. Et les patrons se sont laissés entraîner par cela, pas simplement par l'appât du gain, mais aussi parce qu'ils ont une réaction par rapport à la France. Ils ont trouvé que cette France des 35 heures, cette France où on était incapable d'avoir un équilibre budgétaire, était une France qui n'était pas désirable.
Il y en a un qui le dit d'ailleurs, un pays où il fait bon vivre, mais pas bon investir.
Voilà, c'est ça.
Vous parliez de l'attachement à la fois à ce que nous sommes, mais aussi au fond, au territoire et au sol. Vous dites qu'un patron allemand est allemand le plus souvent, un patron américain est américain. Là, Carlos Tavares, il est portugais, Luca de Meo, il est italien, Carlos Ghosn est libanais. Est-ce qu'il y a aussi ça qu'on a perdu de vue, nous, en France, peut-être ?
Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ça c'est Louis Gallois. Et Louis Gallois, qui est un patron de gauche, mais il a surtout un avantage, c'est qu'il a une vision à la fois française et allemande, puisqu'il a été le grand dirigeant de ADS, qui a les pieds des deux côtés du Rhin. Et il me racontait qu'après 2008, effectivement, tous les hommes politiques et les hommes d'entreprise allemandes se sont réunis pour voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble pour protéger le territoire. Louis Schweitzer, un autre patron qui a été longtemps administrateur de Bosch, dit « Bosch avait le droit de faire tout ce qu'il voulait comme investissement à l'étranger, à condition de protéger ses usines sur le territoire national. »
Absolument.
Ça n'existait pas en France, et c'est pour ça que malheureusement, effectivement, on a délocalisé en gros deux fois plus en Allemagne que deux fois plus en France qu'en Allemagne, et deux fois et demi plus qu'en Italie.
Et c'est intéressant, effectivement, ce que vous dites, parce que vous dites on a délocalisé comme des malades, c'est pas une phrase de vous, mais effectivement, on a délocalisé comme des malades. Et puis vendu aussi, vous citez Patrick Kron chez Alstom, qui a vendu à General Motors, et on se souvient de ce que ça avait provoqué, comme si au fond, y compris l'attachement à l'outil, n'était pas le même chez nous, qui peut l'être notamment chez nos voisins allemands.
Oui, mais en l'occurrence, si vous voulez, il faut lui rendre justice à Patrick Kron, il a été extrêmement critiqué, il n'a pas vendu à General Motors, mais à General Electric.
Pardon,
qu'il avait une inquiétude réelle par rapport à ce qu'était la chute des commandes dans les grandes turbines électriques. Mmh. Et si vous voulez, c'est aussi ça le métier de patron. Oui. C'est qu'à un moment donné, vous devez vous préoccuper pour votre avenir et il ne voulait pas fermer. Il a vendu, et il a vendu effectivement à un très bon prix, parce que General Electric voulait se refaire un petit peu une image de grand industriel, et il a joué également un très bon coup. Mais il a évité sans doute le plus grand plan social français en prenant cette décision-là.
Vous interrogez dans ce livre, Vincent Beaufils, sur le pli au fond qu'on a pris chez les anglo-saxons ou pas, et notamment est-ce que c'est l'actionnaire qui, au bout du compte, est de toute façon celui qui décide et pas les autres. Vous citez des phrases, on parle de Michelin par exemple, qui est aux yeux des anglo-saxons trop social, et c'est un souci. Vous parlez de Danone et son patron emblématique qui s'appelait Daniel Faber, qui a été Emmanuel Faber décidément, qui a été viré en fait, parce qu'à un moment les actionnaires demandent des comptes.
Oui, mais parce qu'il y a un moment donné aussi, dans le cas d'Emmanuel Faber, il est passé de l'autre côté du cheval. Il a oublié qu'effectivement il fallait quand même apporter des profits. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il
Trop social, on passe de l'autre côté du cheval, en fait, de fait. C'est ça que ça veut dire?
Bah, C'est en tout cas, vous avez ça, vous avez aussi des patrons qui peuvent, entre eux, considérer que tel ou tel est trop gentil. Dire un patron,
trop gentil,
pour certains, ça doit être dur. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ce n'est pas le sujet. Il doit être efficace. Il ne doit pas être dur ou mou. Ce n'est pas le sujet.
Dur, hein. Vous y allez, hein, effectivement, sur le caractère difficile. Hein. Vous racontez qu'à l'étage de Patrick Pouyanné chez Total, on appelle ça les 40e rugissants. Donc, ça donne quand même une idée. Vous citez Bolloré, que vous connaissez bien. Vous aviez déjà écrit un livre sur lui qui revendique un peu de crainte et un peu de terreur. Et vous parlez aussi quand même de leur côté très mégalo. Il y a du temps chez Carlos Ghosn et il y a des phrases à son sujet. C'est Anne Méo qui dit, la communicante, qui dit c'était un patron prodigieux mais qui n'a rien compris à la France. Il y en a un autre qui dit un génie absolu qui a pété les plombs. En fait, on est tout seul dans son Olympe quand même quand on est un patron aujourd'hui. Et peut-être en France particulièrement ou pas ?
Je pense qu'en France, comme on a une société qui est par nature assez verticale, on a un président de la République, et donc effectivement, très naturellement, on se laisse aller à ce syndrome, et on laisse se créer autour de soi une forme d'espace qui vous isole. Et la chose la plus importante pour un patron, c'est de briser cette espèce de bouée qui se met autour de vous pour rester proche des gens.
Je vais citer cette phrase, c'est celle de Jean-Charles Decaux que vous citez, qui dit ceci: je me suis aperçu que personne ne m'avait dit non depuis un an. J'étais Dieu sur l'Olympe, et pourtant j'en ai fait des conneries. Mais quand t'es encensé toute la journée, tu deviens l'acteur d'une pièce de théâtre, et j'ai fini par croire que tout le monde était d'accord avec moi, et que j'avais toujours raison. Résultat, cette absence de remise en cause m'a inquiété, et je me suis auto-viré.
C'est pas Jean-Charles Decaux, c'est Alain Dinin qui a, au cours d'une conversation avec Jean-Charles Decaux. Mais c'est une preuve extraordinaire.
Mais c'est dingue, et c'est quand même très rare. Voilà, alors, vous parlez des femmes quand même, pour dire qu'elles sont... toujours une denrée rare chez les très grands patrons, mais quand même peut-être avec des travers narcissiques qui ne sont pas les mêmes.
Bah, bien évidemment, c'est-à-dire que d'abord, il y a ce syndrome de l'imposteur qui fait qu'elles sont toujours volontairement en quête de savoir si ce qu'elles font est bien, donc elles doutent. Or, il y a ce risque du patron de dire que non, je ne doute pas, ma stratégie est bonne. C'est ce qui est parfois le problème avec un Patrick Pouyanné. Mais le rôle des femmes a été aussi très important dans les conseils d'administration, grâce à la loi qui a fait monter en puissance les femmes à plus de 40% dans les conseils. Elles arrivent, et il y en a une qui m'a dit, bah oui, les mecs, ils étaient là, nous on est arrivés pour bosser, et on les a poussés, les hommes, effectivement, à réellement travailler et à ne pas se laisser embobiner par les patrons.
Vincent Beaufils, une dernière chose rapide, est-ce qu'il y a un syndrome américain qui est en train d'atteindre certains patrons? Je pense à Bezos et le Washington Post, mais du coup à Bolloré aussi et son rôle dans les médias, et pas seulement. Est-ce que c'est un syndrome américain qui est en train de nous tomber dessus là aussi?
En tout cas, on a des patron de combat, ce qu'on n'avait pas avant, votre chronique juste avant, etc.
Ah ouais.
Bolloré,
ouais.
Il a des médias parce que il veut mener un combat. Ouais. Mais vous avez des patrons comme Xavier Niel ou comme Bernard Arnault qui ont des médias par souci d'influencer, mais qui n'ont pas cette conviction qu'ils veulent faire partager comme Pierre-Antoine Stretzerin ou Vincent Bolloré.
Allez, Vincent Beaufils, ça s'appelle « Les patrons sont-ils des monstres » aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup de votre passage chez nous.
Merci à vous tous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe au Kurdistan irakien, où depuis la dissolution du PKK, les civils espèrent retrouver une vie normale. La bande habituelle qui vous accompagne jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Japon, un ministre dans la tempête à cause de la crise du riz.
Le Monde à 18h50 et Louise Baudet, bonsoir Louise.
Bonsoir, la condamnation d'Israël et de son offensive à Gaza gagne du terrain dans les mots en attendant les actes.
Et Caroline au Pays des 27 avec Caroline Gillet.
Bonsoir.
Salut Caroline.
Oui, crise financière en 2008, migratoire entre guillemets en 2014, crise sanitaire. Que nous racontent les crises européennes à répétition. Lola Avril, jeune chercheuse, travaille sur ces questions.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la playlist d'Inter avec le choix de Djoubaka. C'est Jalen Ngonda, Just As Long As We're Together. On reste ensemble, justement, bougez.
Just as long as we're together.
reportage est au Kurdistan irakien ce soir avec les civils du Kurdistan irakien qui espèrent que leur vie va changer. Je ne vous apprends rien, le PKK a officialisé sa dissolution, c'était il y a à peine plus d'une semaine. Une décision historique censée mettre un terme à plus de 40 ans de guerre contre la Turquie. Or c'est bien dans ce Kurdistan irakien que les combats étaient concentrés puisque le PKK y avait installé son QG. Depuis 2022, l'armée turque mène même une opération militaire d'envergure dans la vallée d'Amédi, une véritable occupation de territoire où les populations civiles sont prises en étau. Elles espèrent bien que ça va changer. Et le reste, c'est Lucas Lazo qui raconte.
Nous sommes deux jours après l'annonce par le Parti des travailleurs du Kurdistan de sa volonté à s'engager dans un processus de paix avec la Turquie et le calme règne dans le petit village de Gouarzé au Kurdistan irakien. À la mi-journée, les hommes sont rassemblés à la mosquée, les ruelles désertées. Shaïda, 19 ans, nous ouvre les portes de son jardin. Une sérénité qui contraste avec la violence de ces derniers mois.
Le 27 octobre dernier, on était tous en train de dîner. Il n'y avait pas particulièrement de combat ce soir-là, alors on ne s'y attendait pas. Quand soudain, il y a eu un immense fracas. On est sortis précipitamment de la maison. On ne pouvait rien voir avec la fumée et la poussière.
Le père de Shaïda nous emmène au fond du jardin. Il désigne un cratère creusé à une dizaine de mètres de la bâtisse.
Une roquette tirée par un drone est tombée juste là. Regardez, ici le plafond s'est effondré, les murs sont fissurés, toutes les fenêtres ont été soufflées vers l'intérieur de la maison. Nous avons vidé quatre brouettes de gravats.
La bombe qui s'est écrasée sur le jardin de Shaïda et son père a été larguée par un drone turc. Alors qu'on parle de la paix, leur ronronnement discret est incessant dans le ciel de Gouarzé. Sur une pente rocailleuse à la sortie du village, nous retrouvons son chef, Ahmed. Il fait paître ses 200 chèvres dans un enclos bien trop étroit.
Si l'on s'éloigne du village, on risque d'être pris pour cible. Les drones vont se mettre à nous tourner autour dans le ciel. Ils vont nous forcer à rentrer avec nos chèvres. C'est pour ça qu'on ne quitte pas le village. On se fait tirer dessus.
Dans sa lutte contre la guérilla du PKK repliée dans un réseau de tunnels et dont les déplacements sont invisibles, depuis 6 ans, la Turquie a renforcé son emprise sur le territoire.
Avant, nous vivions plus haut dans la montagne. Nous avions des vignes, des arbres fruitiers, nos fermes. Mais nous ne pouvons plus y accéder. L'armée turque occupe ces terres. Nous ne pouvons plus les cultiver. Et toutes nos parcelles ont brûlé. Nous avons le sentiment d'être coincés dans une prison. Nous sommes juste au milieu des combats entre les Turcs et le PKK.
La Turquie a pénétré en profondeur les vallées du Kurdistan irakien. Nous prenons la direction du village de Sergele, situé à 20 km de la frontière. Agriculteur à la retraite, Rochavi nous invite à le suivre sur son toit et pour en prendre la mesure, il désigne les flancs de la montagne qui surplombe le village.
Vous voyez de ce côté, il y a les bases de la Turquie, toute la montagne de Matin, c'est désormais la Turquie.
À moins de 500 mètres, nous pouvons discerner les sacs de sable qui protègent une installation militaire posée sur un promontoire rocheux. Il y en aurait plus de 136 disséminés au Kurdistan irakien.
La Turquie, c'est la seconde armée de l'OTAN, une force très puissante avec des avions de combat, des mortiers, des mitrailleuses. Ils frappent de ce côté, vers là-bas, de jour comme de nuit, les bombes tombent sur notre village.
Deux jours avant notre passage, une bombe turque s'est écrasée à une centaine de mètres de la maison de Rochavi. Heureusement, elle n'a pas explosé, mais ces incidents sont quotidiens alors que l'aviation turque a conduit plus de 200 bombardements au mois d'avril 2025.
Nous sommes tous extrêmement soulagés que le PKK ait pris cette décision de se dissoudre. Ils auraient dû la prendre il y a plus de 10 ans. Si ce processus de paix est un succès et que le PKK abandonne les armes, nous pourrons retrouver nos montagnes, nos animaux, nos fermes.
Pourtant, les mains crispées autour de sa tasse de thé, Rochavi est habité par les doutes. L'opération militaire turque s'accompagne d'une véritable entreprise de prédation économique des ressources irakiennes.
Je ne suis pas sûr que la Turquie s'en aille aussi facilement. La terre du Kurdistan, c'est de l'or. Et les Turcs ont jeté leur dévolu dessus. Ils ont coupé tous les arbres de la région, des arbres fruitiers, parfois centenaires, et ils les ont emportés en Turquie. Mais si le PKK n'existe plus, ça doit s'arrêter.
Les bruissements de la paix sont surtout toutes les lèvres dans cette vallée où les civils vivent sur un fil. Et les bombardements ont certes diminué ces derniers jours, mais n'ont pas cessé pour autant alors que la démobilisation du PKK est attendue ces prochains mois.
Lucas Lazo pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
C'est d'abord au Japon que nous sommes, Kevin, avec un ministre en difficulté.
Oui, parce que Taku Eto, en charge de l'agriculture, a fait une déclaration plus que polémique ce week-end. Alors que les prix du riz explosent ces derniers mois dans le pays, on en a déjà parlé ici, Taku Eto a eu cette phrase lors d'un rassemblement de son parti politique. « Je n'ai jamais acheté de riz parce que mes soutiens m'en donnent tellement que je pourrais même en vendre. » De quoi déclencher la colère d'une bonne partie des Japonais et de l'opposition et du Premier ministre en personne, qui ce matin a recadré son ministre parlant de propos extrêmement regrettables. Son travail maintenant est de fournir des solutions à la flambée des prix du riz, a fermement rappelé Shigeru Ishiba. Face à la polémique, Taku Eto ne s'est pas vraiment excusé, indiquant avoir exagéré et que sa femme lui avait fait remarquer qu'elle allait acheter du riz, elle, lorsque leur stock était épuisé. Depuis l'été 2024, le prix du sac de 10 kg de riz a presque doublé au Japon, en raison notamment d'une très mauvaise récolte en 2023, forçant le gouvernement à débloquer ses propres réserves stratégiques.
Nous voici au Venezuela qui accentue son bras de fer avec la Colombie.
Oui, hier Caracas a suspendu toutes les liaisons aériennes avec son voisin. La raison, le gouvernement affirme que ce qu'il appelle des mercenaires tentent de s'infiltrer depuis la Colombie dans le but de saboter les élections législatives et régionales qui ont lieu dimanche au Venezuela. Le président Nicolas Maduro assure que 38 de ses supposés conspirateurs ont été arrêtés ces dernières heures et son ministre de l'Intérieur met en cause la chef de l'opposition qui vit dans la clandestinité depuis près d'un an. Il l'accuse d'être lié à ses mercenaires. Résultat, hier, pagaille à l'aéroport de Bogota. La mesure a été annoncée juste avant le départ d'un vol pour Caracas, empêchant des Vénézuéliens de rentrer dans leur propre pays. L'opposition à Nicolas Maduro revendique toujours la victoire à la dernière présidentielle et appelle au boycott des élections dimanche.
Et puis nous sommes en Norvège avec un champion du monde poussé dans ses retranchements.
Oui, on parle ici du numéro 1 mondial des échecs, Magnus Carlsen. Depuis le 4 avril, il jouait une partie en ligne, lui tout seul, contre 143 000 adversaires, 143 000 cerveaux qui réfléchissaient ensemble à comment battre le grand maître. Et ils ont réussi, ou plutôt, ils sont parvenus à le pousser au match nul, ce qui est déjà pas mal. Coincé dans un coin de l'échiquier, Carlsen a été mis en échec 3 fois et à chaque fois, les pièces de l'échiquier se sont retrouvées dans la même position. Et là, la règle stipule qu'il y a match nul. Ce qui a surpris le monde des échecs, les spécialistes prédisant que Magnus Carlsen allait facilement l'emporter. Le match a donc duré plus d'un mois et s'est terminé au 32e coup. Et oui, puisque chaque camp a 24 heures pour réfléchir et jouer chaque coup à 143 000, tu m'étonnes. Ce n'était que le 3e match de ce genre dans l'histoire. Un champion contre le reste du monde. Le premier à l'avoir fait, c'était Kasparov en 99. Il n'avait alors que 50 000 adversaires.
Quel petit bras, ce Kasparov. Kevin, moi, ça, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Vous partez avec Alan Vega, Jukebox Babe, qui a presque 40 ans, dites-moi. A tout de suite. Came from nowhere to St. Francis Street. Jukebox Baby, I played a little bit. Cadillac came, watch for the heat. Jukebox Baby, Jukebox Baby. Little lady, says my name. Jukebox baby, playing a strange game. Fly jumper player, looking for fame. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Jukebox baby, jukebox baby. Coming home to us where I stay. Oh, jukebox baby, playing Johnny Rep. Oh, hot shot gambler, looking for play. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby.
partagé autour de cette table au sujet d'Alan Vega. Ça s'appelle Jukebox Babes sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h, presque 49. C'est Louise Baudet.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Louise, l'offensive israélienne s'intensifie à Gaza. 53 000 morts en 18 mois, donc des tonnes de nourriture bloquées à la frontière là depuis 2 mois. 2 millions de personnes affamées, c'est ce que dit l'OMS. Et des chancelleries occidentales qui haussent le ton. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi les mots sont forts, mais aussi pourquoi les actes tardent à suivre.
Oui, d'abord cette rupture de style inédite dans un communiqué qui sort de l'habituelle prudence diplomatique. La France, le Royaume-Uni et le Canada dénoncent le langage odieux du gouvernement israélien. Ces actions scandaleuses, un niveau de souffrance intolérable, la violation du droit international humanitaire et une escalade totalement disproportionnée. Nous ne resterons pas les bras croisés, écrivent les trois capitales alliées traditionnelles d'Israël, dans un style vigoureux, même si les menaces sont floues. Le ministre français des Affaires étrangères était ce matin au diapason sur France Inter, dénonçant la violence aveugle d'Israël à Gaza. Gaza, mouroir pour ne pas dire cimetière.
Donc voilà pour les mots et les actes alors.
Alors des signaux sont envoyés. Londres a suspendu aujourd'hui la négociation d'un accord de libre-échange avec Israël, convoqué son ambassadrice et va imposer des sanctions contre des colons auteurs de violences en Cisjordanie. La Suède plaide pour des sanctions européennes contre certains ministres israéliens et les chefs de la diplomatie des 27 réunis à Bruxelles ont examiné aujourd'hui cette proposition. Frapper Israël au portefeuille en suspendant l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État hébreu. Accord de libre-échange industriel et agricole, accord non négligeable. L'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël.
Ce levier commercial, Louise, il est important, il y en a d'autres.
Oui, bien sûr, les relations bilatérales entre les pays européens et Israël sont multiples. Depuis les accords scientifiques et universitaires ciblés par les manifestations pro-palestiniennes sur les campus, jusqu'aux exportations d'armes, la France assure n'envoyer à Israël que du matériel défensif, mais la vente de certains composants problématique échappe à sa compétence, tout comme les partenariats entre industriels français et israéliens. De même, le Royaume-Uni continue d'exporter du matériel militaire vers Israël, en particulier des pièces de fabrication du F-35 américain.
Ce qui vaut à ces pays des accusations de complicité de crimes de guerre.
Oui, Paris, Londres, mais aussi Berlin sont attaqués en justice par des ONG et acteurs de la société civile. Dernière en date, cette mise en demeure de l'Union européenne pour manquement à son obligation d'agir face au risque avéré de génocide à Gaza. Action lancée il y a 8 jours par un groupe de juristes. Action adossée à la procédure toujours en cours de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Mobilisation sur le terrain judiciaire donc, mais aussi dans la rue. 100 000 manifestants à La Haye dimanche, rassemblement le plus important aux Pays-Bas depuis 20 ans.
Sous la pression des gouvernements, Louise, infléchissent leurs discours, mais les capitales occidentales sont très loin d'être alignées.
Effectivement, si aujourd'hui Paris, Londres et Ottawa accordent leur discours et dans les actes se disent déterminés à reconnaître l'État de Palestine, d'autres envoient des signaux inverses. Exemple, le Parlement hongrois qui vient d'acter son souhait de quitter la Cour pénale internationale. Ces pays qui a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou accueilli en grande pompe à Budapest début avril. Au-delà du cas Orban, les Européens sont notoirement divisés sur cette question, lestés d'un poids de l'histoire inégal selon qu'on vit à Berlin ou à Dublin. Résultat, les ministres des Affaires étrangères des 27 saisis de l'accord d'association avec Israël s'en sont tenus aujourd'hui à un simple tour de table.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le mardi, c'est Caroline Gillet qui explore les institutions européennes et va chercher ses acteurs derrière des portes rarement ouvertes. Qui est là ?
France Inter, le 18-20.
Alors, qui est derrière la porte aujourd'hui, Caroline ?
Eh bien, la personne dont je vous fais le portrait cette semaine a le prénom le plus classe de cette série. Jusqu'ici, certes, il y a eu une Johnny, un Roku, une Gaïa. Elle est bien au-dessus, elle s'appelle Lola Avril. Avec ça, il faudrait avoir un destin romanesque. Eh bien, elle s'en sort pas si mal. Elle a été une grande harpiste et maintenant, jeune chercheuse, elle publie des textes pour tenter d'apporter plus de transparence dans les institutions européennes. Elle vient d'avoir un poste à la Sorbonne. Je lui demande si on peut monter voir son bureau.
Je suis encore en installation, quoi, parce que j'ai commencé mon poste en décembre et j'ai pas enseigné à ce semestre.
Et du coup, est-ce que vous dites encore en arrivant ici « Waouh, j'ai un bureau à la Sorbonne ».
Ouais, j'ai fait une petite story Instagram. Et j'ai envoyé ça à tout, évidemment, toute ma famille. C'est quand même... ça fait quelque chose.
On entre par la petite porte derrière, mais c'est la classe quand même.
Travaille sur quoi en ce moment ?
Le projet sur les revolving doors, donc sur les circulations publiques privées.
Alors c'est quoi les revolving doors ?
Nous on a un peu travaillé par exemple sur le cas de Nelly Kroes, qui était une commissaire européenne équivalent d'un ministre, on va dire français, et qui en fait était allée travailler pour Uber. Mais en réalité ça touche toutes les couches du champ politico-administratif européen. Il y avait environ 20% des membres des cabinets d'avocats qui étaient passés par la Commission européenne. Donc voilà, ça pose des questions en termes de conflits d'intérêts en fait assez important.
En 2022, le Parlement européen avait été touché par un scandale de corruption, le Qatargate. Et suite à ça, Lola et des collègues avaient écrit un livre blanc pour proposer des pratiques communes plus éthiques dans les institutions.
Avec ces scandales, etc., le réflexe, souvent, c'est d'imposer plus de transparence. Donc, de déclarer les réunions, déclarer les cadeaux, déclarer ses intérêts. Sauf que, en fait, ces politiques sont inefficaces si on n'a pas de contrôle de ces déclarations. Et ça, c'est un énorme travail qui est fait, alors, qui est de montrer que 70% des déclarations du registre de transparence des lobbyistes européens sont erronées. Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas le montant exact de lobbying, etc.
Lola observe de près ce qui se passe avec la création d'un nouvel organisme européen pour les normes éthiques.
On la critique beaucoup déjà, avant qu'elle soit sortie, parce que c'est quelque chose qui est complètement sans pouvoir d'enquête, c'est sans pouvoir de sanctions réelles, c'est assez cosmétique.
Le projet a été rejeté lors d'un vote au Parlement il y a quelques jours par le PPE de centre-droit, allié avec des groupes de droite et d'extrême droite.
Ok, donc là on est dans un couloir avec un sol en pierre qui a été très bien nettoyé, qui brille. Et puis il y a des salles D631.
On passe devant la salle où Lola a soutenu sa thèse.
Donc c'est une salle en bois avec des bureaux en bois. Bonjour. C'était comment de soutenir sa thèse ?
C'était très impressionnant. Moi je disais que c'était un peu mon mariage avec ma profession, quoi. La maman rencontre le directeur de thèse. C'est voilà, un moment un peu étrange.
Lola a été harpiste de haut niveau parce qu'elle avait vu les Aristochats et que Duchesse, vous savez la chatte très belle et stylée, y joue de la harpe merveilleusement. Elle avait eu le prix du conservatoire après le bac.
De couleurs, cette chanson. J'ai raté le concours du Conservatoire National Supérieur de Musique une fois et j'étais très vexée. J'ai tout arrêté pour reprendre mes études. La pratique du conservatoire aussi était un peu destructive. Ça peut faire du bien de claquer la porte.
Lola a revendu sa harpe pour payer ses études, mais elle continue de parler de musique dans une chronique mensuelle sur la radio en ligne Tsugi.
Tsugi Radio. Tsugi Radio.
Où elle parle des liens entre politique et musique. Après ses études européennes, Lola a fait un stage dans le lobby des banques. Et puis, jeune chercheuse, elle a voulu monter des projets collectifs. Et avec des amis chercheurs, ils ont publié un livre sur les crises européennes.
On avait eu un enchaînement de la crise financière de 2008, puis la crise, alors que je mets bien entre guillemets, des migrants de 2014, et puis le Covid, et puis la crise de la guerre en Ukraine. Un peu l'impression d'être dans une crise perpétuelle. Et qu'est-ce qu'on pouvait en dire en tant que politiste ou sociologue du politique de cette idée que l'intégration européenne ne se ferait que par les crises ? Il y a toujours cette vraie fausse citation de Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises, quelque chose comme ça. Ce qu'on proposait de dire, c'est que la crise, d'abord, il faut qu'elle soit labellisée comme telle. Il faut qu'un événement soit labellisé par des acteurs pour être une crise. Il y a des crises qui n'en deviennent jamais. La crise climatique, par exemple, n'est pas vraiment quelque chose qui est pensé comme une crise au niveau européen, oui, qui nécessiterait des mesures urgentes, un investissement conséquent, etc. Et il y a d'autre part d'autres événements qui sont érigés en crise, et notamment, on peut penser à la crise des migrants, donc beaucoup de spécialistes des migrations disent qu'elle a été aussi très politisée, en fait.
Je lui demande avant de la quitter si, depuis son espace à elle, de chercheuse, elle sent qu'elle peut faire bouger les choses.
Je pense qu'il y a des moments aussi de la recherche et des manières de présenter la recherche qui font qu'on peut aussi intervenir dans le débat public. Je pense qu'il y a un petit peu un devoir de complexifier le rapport à l'Europe. Le débat politique qui est présenté comme un pro-intégration ou contre l'intégration est assez vain. Il a paralysé la pensée politique autour du projet européen. Je me suis fait reprocher de ne pas donner aux gens envie d'aller voter parce que je parlais du lobbying européen. C'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut aussi, c'est en s'interrogeant sur les liens avec les intérêts privés, le lobbying, etc., qu'aussi on peut participer de la constitution d'une meilleure démocratie transnationale à Bruxelles.
Voilà, merci Lola Avril. Et merci à Ryan Saibi pour son aide sur la chronique et à Romain Couturier pour les choix musicaux.
Et merci à vous Caroline, vous reviendrez ouvrir des portes mardi prochain dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly juste après le téléphone sonne, bien sûr. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, ce soir nous avons ouvert le rapport de la Cour des comptes. L'enseignement primaire est en décalage avec les besoins de l'enfant. On commence avec cette phrase.
Oui, j'ai déjà deux messages de Sophie et de Claire. Sophie, mon cœur de maîtresse pleure tous les jours quand je vois à quel point l'école d'aujourd'hui est triste, verticale et descendante. Les élèves sont passifs, on ne les incite pas à développer leur créativité. J'ai Claire qui termine sa 34e année d'enseignant en élémentaire. Le point de bascule pour moi, la rentrée 2008 et le passage à la semaine des 4 jours. Aucune réforme ne pourra être efficace si on ne touche pas au temps scolaire.
01 45 24 7000 pour discuter avec nous, même chemin par WhatsApp. A tout de suite.